Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Emmanuel Moses, qui publie Le théâtre juif et autres textes chez Gallimard. Comme le phénix, l'acteur meurt et renaît perpétuellement de ses cendres. L'acteur est ce corps noir qui s'avance sur la scène où il blanchit avant de virer au rouge vif du feu suprême. Le roi ne doit-il pas, lui aussi, mourir à soi pour ressusciter à la fin de la pièce ? L'acteur est cette pierre noire qui déboule et tend de métamorphose en métamorphose vers la pureté absolue de l'or. Comprenez bien l'intention secrète qui anime ces images, leur essence où se résolvent les apparentes contradictions. Les symboles sont parfois à prendre au mot. Le théâtre béait en lui. Ils avaient fusionné et peut-être même étaient-ils depuis toujours indistincts. L'art du double portait d'emblée à sa perfection, ainsi que l'écrivait dans son journal le maestro assoluto. Le théâtre éclatait en lui, se scindait partie lumière, partie ténèbres. Sa droite était votre gauche, et sa gauche, votre droite. Du jour au lendemain, Emmanuel Moses. C'est de votre faute d'ailleurs, hein. Vous n'avez qu'à pas écrire de livres et je ne vous inviterai plus. J'ai déjà eu l'occasion de dire que vous étiez né à Casablanca, que vous aviez passé une partie de votre enfance en Israël et que depuis maintenant assez longtemps, 1986 je crois, vous vivez à Paris. C'est à Paris que vous écrivez les livres que vous publiez, des livres de poésie, des romans et des traductions de plusieurs langues, de l'allemand, de l'hébreu, peut-être d'autres langues encore.
De l'anglais, ça m'arrive aussi. Oui.
Et tout ça, ça fait beaucoup de livres que vous avez publiés. Je vais rappeler quelques titres récents. La vie rêvée de Paul Averroès, celui-là il a 10 ans. Les Tabors, Marthe Bell, Le rêve passe. Et puis, je ne passerai pas sous silence les livres de poèmes, parce que la poésie, ça existe encore. Hein. Figure rose, l'animal, deux livres qui ont été accueillis dans la collection Poésie des éditions Flammarion. Et plus récemment, chez Belin, Prélude et Fugue. Vous étiez venu en parler ici, hein ? Non, pas de Prélude et Fugue, mais de Figure rose et de l'animal.
Absolument. Bon.
Alors, c'est une poésie, d'ailleurs, qui vous appartient en propre, hein, qui correspond pas aux tendances les plus novatrices qu'on peut constater aujourd'hui. Elle est tour à tour narrative, ironique, déconcertée. Et surtout, elle est rongée de prose.
Tout à fait, oui. Tout comme la prose, le passage que vous avez lu m'a surpris. puisqu'il ne m'appartient plus, il appartient au livre et maintenant, par ses affinités et sa proximité avec certains poèmes que j'ai pu écrire. Donc il y a des phénomènes de contamination et de trans générique. Ouais.
Écrire de la poésie et de la prose, c'est pour vous une façon d'essayer de ne pas vous enfermer dans un système.
C'est très bien formulé, oui. Je crois que d'une manière générale, tout ce que j'écris relève de cette tentative-là de ne pas m'enfermer dans un système, quel qu'il soit, de remettre à chaque fois un peu le compteur à zéro, quoi. Et donc, ce passage d'une énergie à l'autre me fait beaucoup de bien parce qu'il redistribue les cartes à chaque fois autrement.
Mais il y a des fils qu'on peut tirer où on trouvera, quel que soit le genre auquel le livre appartient, on trouvera la mémoire, par exemple, et la nuit ou l'obscurité, les ténèbres, comme le texte là que j'ai lu l'indique.
Oui, je pense qu'il y a si cohérence ou unité il y a, elle est thématique beaucoup plus que stylistique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc elle peut être, elle l'est d'ailleurs, modulée, déclinée, traitée de manière différente. Pourquoi c'est mystérieux. Pourquoi telle forme plutôt qu'une autre? Ça peut être une sorte de dialogue, de théâtre, poésie. Nouvelles, romans, peu importe. Mais les motifs sont assez limités, en fait. Oui.
Je me suis souvenu d'un fragment que j'avais lu dans Le Rêve passe, un livre que vous aviez publié dans cette même collection, L'Infini, où paraît aujourd'hui le théâtre juif chez Gallimard. Là, vous écriviez, au début, on n'y comprend rien. C'est comme l'obscurité au théâtre avant le commencement de la représentation. Sans cette obscurité, qui percevrait dans toute son intensité la lumière à venir? Et peut-être qu'on peut penser à ce fragment avant d'aborder la lecture de ce nouveau livre.
Oui, je pense en tout cas qu'entre Le Rêve passe et le théâtre juif, il y a vraiment des passerelles et des liens très, très forts, même s'ils sont souterrain ou pas toujours évident, ils sont là. C'est un peu un prolongement. Ouais.
Comment l'avez-vous construit ce livre, Le théâtre juif et autres textes, qui est encore un livre atypique, composé de trois parties?
En fait, les textes, j'ai réuni des textes qui, d'une certaine manière, entrait dans un même cadre qui était plutôt un cadre temporel, c'est-à-dire que je les ai écrits sur une période assez limitée d'un an et demi à peu près. Et ils possèdent tous un trait commun qui est d'être, d'une certaine manière, à l'exception du premier qui est plus ancien, de tourner autour de la figure, en tout cas pour moi, de mon père, même s'il n'apparaît pas dans tous les textes, et en tout cas d'avoir été inspiré, d'avoir été des réactions, comment dire, presque un arsenal des armes pour affronter le deuil du père. Voilà. Donc la mémoire, la famille, la violence d'une disparition. Et voilà, de la mort, et le sexe, qui est une sorte de désorganisation aussi, en tout cas les deux textes que j'ai inclus dans ce livre le montrent, désorganisation due à cette, d'une certaine manière, à cette disparition.
Votre père était un grand intellectuel qui a disparu il n'y a pas très longtemps.
Voilà, c'était un... C'était une figure qui, c'était un père à l'ancienne, disons, voilà. Un père à l'ancienne et une personnalité très, très complexe, mais avec lequel j'avais des liens très profonds sur le plan intellectuel.
Même si ses livres ne ressemblaient pas aux vôtres.
Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y avait une racine commune, un terreau commun, et qu'il a traité à sa manière, avec sa sensibilité, son intelligence et sa culture, son savoir, et que moi j'ai abordé autrement à ma manière et dans la modeste mesure de mes moyens. Mmh. Voilà.
Donc, trois parties composent le livre, la famille, la violence et sexe. Et chacune de ces parties comprend elle-même deux sous-parties. Et les sujets de ces textes sont extrêmement différents d'un bout à l'autre du livre. Mais pas seulement les thématiques, les styles aussi, les styles d'écriture. Alors, vous disiez que les textes ont été écrits à des époques différentes, ça, bon, on peut l'imaginer, mais c'est peut-être pas une raison suffisante pour expliquer cette diversité stylistique.
Là, on touche, enfin, vous touchez à un des points peut-être névralgiques mon dispositif d'écriture et de mon rapport à l'écriture et à la création. Qui est justement on en a déjà parlé brièvement il y a quelques minutes, justement le besoin de changer son fusil d'épaule en permanence, de se mettre en danger, de prendre des risques, de varier à l'infini presque les angles d'attaque, les registres, les rythmes. C'est très important pour moi. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour échapper à l'ennui, au procédé, au ronron, ça et autre chose peut-être, une certaine nervosité intérieure, la fameuse nervosité juive ashkenaz. Voilà, je ne sais pas. C'est possible aussi.
L'impossibilité de vous fixer dans un monde, donc vous préférez une pluralité de monde.
Voilà. C'est une forme de vagabondage, en fait, de nomadisme pour moi. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est une forme de nomadisme.
Ouais. Et ce nomadisme, vous ne l'avez pas choisi. Il s'est imposé à vous.
Il s'est imposé à moi, absolument.
Dans la première partie, c'est la famille qui est présente. La famille avec un F majuscule. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que
vous êtes prêt pour la majuscule.
Je pense qu'on n'a pas le choix. On a sur le dos ce mot-là avec écrit en majuscule en lettres capitales, ça j'en suis sûr, gravé comme dans la colonie pénitentiaire. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Il y a des bouts comme ça, des bouts de ficelle, on tire sur l'un puis sur l'autre, mais dans ce texte-là, le premier surtout, disons que je sonde un tout petit peu la famille de mon père, justement, enfin une partie de la famille de mon père, qui rejoint l'histoire des Juifs d'Allemagne, mais qui, d'ailleurs, la transcende pour aborder l'histoire, avec un H majuscule là aussi, l'histoire du 19e puis du 20e siècle en Europe. Voilà, il se trouve que j'ai hérité là des papiers de famille dont je parle dans cette nouvelle très très récemment, et je suis très troublé par tout ce que j'ai trouvé, par cette plongée.
Cette remontée dans le temps.
Et cette remontée dans le temps, oui.
Avec au centre un grand-père, Kulbrand, qui fait l'objet d'un véritable culte dans la famille.
Oui, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, comme d'autres membres de cette famille. J'y pensais encore hier soir, parce que c'était une famille... toutes les familles... sont sont émouvantes, mais c'est vrai que donc lui était un des premiers médecins juifs d'Allemagne, enfin de Prusse, et ça a été une sorte de héros lors d'une épidémie de choléra. Mais d'autres membres de la famille ont été, pour l'un, fondateur du Parti social-démocrate allemand, exécuteur testamentaire d'Engels, pour l'autre, fondateur de la neurologie, etc. Et tous ces gens-là appartenaient à la même famille, étaient des juifs assimilés, germanophones. C'est assez émouvant et étonnant. Mmh. Ouais.
C'est la souche, en tout cas, ce grand-père, sur laquelle a pu se développer la chronique familiale.
Oui, ou la mythologie, voilà.
La légende.
La légende, la légende,
oui. Avec une silhouette menaçante, hein, on peut penser au père de Kafka tel qu'il apparaît à la lecture de la lettre qui... Alors qu'en réalité, c'était un homme moins impressionnant qu'on peut l'imaginer.
Oui, parce que justement, cet ancêtre, parce que c'était le grand-père d'un arrière-grand-père, ça remonte à très loin, début du 19e, refusait de se protéger lors de cette épidémie, alors que les autres médecins revêtaient des combinaisons de toiles cirées noires et qui les faisaient ressembler à l'ange de la mort, en fait. Mmh. Quand j'étais enfant, tout ça se mélangeait en moi. Ces légendes devenaient des déclencheurs de cauchemars. Oui.
Tout de même, un homme qui préfère soigner les souffrances des autres hommes plutôt que de faire carrière.
Voilà. C'est quelqu'un de totalement désintéressé. Oui, c'est dans l'histoire, enfin la biographie. Est assez proche d'un conte de fées. Enfin, tout ça m'avait enchanté. Quoi. Mmh.
Très étrange, tout de même, cette disposition de son testament. « Je dispense mes enfants de l'obligation d'accomplir les 7 jours de deuil et de réciter le Kaddish, hein, c'est-à-dire la prière des morts. »
Oui, c'était... toute la contradiction de ces juifs d'Europe de l'Est, enfin d'Allemagne, en voie d'assimilation ou assimilés, qui ne voulaient pas renoncer à leur identité et qui en même temps percevaient la tradition et les prescriptions religieuses et les rites comme un fardeau dont ils souhaitaient se débarrasser.
Et si le narrateur peut nous raconter tout ça, c'est grâce... à la petite chronique écrite par son arrière-grand-père, hein, où d'autres figures apparaissent d'ailleurs.
Voilà, j'ai eu là un arrière-grand-père écrivain régionaliste, non dépourvu de talent d'ailleurs, et c'était très émouvant de pouvoir nouer un dialogue avec lui, cet homme qui est mort en 1946, que je n'ai pas connu donc, et à travers ses livres et à travers... leur utilisation dans ma propre écriture. Et comme quoi, il peut exister des bonds, des sauts et des raccourcis dans l'histoire. Et on peut tout d'un coup se trouver en situation de fraternité avec un grand-père, un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père.
Mmh. Et vous pensez que vous êtes l'héritier de la veine artistique de cet arrière-grand-père ?
Je pense que je suis un des héritiers. Il y en a... d'autres dans la famille, et il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, mais oui, je pense avoir recueilli peut-être une étincelle, quelque chose.
Mmh. Alors il y a une autre nouvelle dans la première partie, la famille, celle-là est intitulée « Le mort », un mort assez singulier, il faut bien le dire, puisqu'il respire, et on ne voit pas tous les jours les morts respirer. Et il se récite des vers.
Oui, c'est ce texte, enfin la naissance de ce texte est assez étonnante finalement, parce que je l'ai écrit alors que mon père était encore en vie, mais qu'il était un de ces grands malades, ces malades chroniques que l'on connaît tous. Et voilà. Et donc, ça a été ma façon de l'accompagner, d'essayer de comprendre un peu cet état-là aussi, qui est tellement différent du nôtre, bien portant, celui des bien portants. voilà, de sentir quelque chose. Et je l'ai écrit de son vivant, tout en... bien sûr, tout en anticipant voilà, sa fin proche, quoi. Mais voilà, je ne lui ai pas montré, je ne l'ai publié que quelques temps après sa mort. C'était évidemment pas possible autrement, mais c'est une nouvelle assez autobiographique, pour le coup. Oui.
Vous lui rendiez visite et...
Oui, je lui rendais visite. Il était au lit, il ne se récitait pas de vers. Enfin,
c'est vous qui lui lisiez de la poésie ?
Oui, ça m'arrivait. On discutait surtout, comme ça, on parlait. Enfin, quand ça lui était possible. Mais la poésie avait été très importante pour lui. Il appartenait à cette génération d'hommes et de femmes qui ont engrangé des dizaines, voire des centaines de poèmes dans leur mémoire et qui les récitaient tout le temps, enfin continuellement. Et donc c'est une sorte d'hommage aussi à sa, voilà, à celui qu'il avait été. Mmh.
Il faut, songe le mort, d'après les propos que vous lui prêtez, s'ouvrir et s'offrir aux choses, à l'éblouissante bleuité des choses.
Vous avez les mêmes références que moi, donc vous pensez à Hölderlin et moi aussi.
Donc il y a des choses qui ne sont pas des faits.
Voilà, des choses qui ne sont pas des faits, oui.
Qui n'ont pas besoin d'arriver pour être.
Exactement, exactement. Mais là, j'ai mis mes pensées dans son cerveau, enfin. Mais je pense que il les aurait accueillies.
La deuxième partie s'intitule « La violence » et elle s'ouvre par le texte qui donne son titre au volume dans son ensemble, « Le théâtre juif ». Une drôle d'histoire est racontée.
Une histoire que je ne comprends pas très bien d'ailleurs. C'est rare parce que d'habitude je comprends plus ou moins ce que j'écris. Et là, enfin non, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je suis parti d'une scène dont quelqu'un m'a dit récemment, et je crois que c'est vrai, qu'elle m'aurait été, de manière inconsciente, peut-être inspirée par une séquence de L'Ange Bleu, où professeur Unrath se met à crier comme un coq, je crois, non pas comme un corbeau, enfin, pousser des cocoricots. Et voilà, c'est possible. En tout cas...
Vous n'êtes pas sûr?
Non, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas impossible. On est habité par tellement de souvenirs qu'on s'incorpore et qui finissent par devenir partie intégrante de ce qu'on est.
Et quand vous avez commencé à l'écrire, il y avait juste la nécessité d'écrire ce récit-là.
Voilà, c'est-à-dire, j'ai vu ce personnage... basculer dans la folie à la suite d'une blessure psychique, enfin d'une humiliation qui pour moi était celle de sa judéité dans un moment de très très grande violence et
donc on évidemment peut penser l'antisémitisme au d'avant-guerre. Grand moment d'un chanteur de Louis-René des Forêts, hein, où un chanteur perd sa voix.
Je ne connaissais pas ce texte, mais ça peut s'apparenter à ce type de cauchemar, d'horreur.
Là, c'est un acteur polonais ou tchèque. Voilà. On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que il bascule dans la folie, comme d'ailleurs
le roi Lear, voilà. Qu'il est censé jouer. Il entre en scène et au lieu de réciter la fameuse tirade « Écoute, ô nature, écoute, divinité chérie », il traverse le plateau dans un sens, puis dans l'autre, il balère de ses bras étendus et il se met à croasser comme un vieux corbeau enroué.
Oui, il se défait, il se fracasse.
Imagine que ça vous arrive à vous un jour en répondant à des questions à la radio.
Ça serait intéressant, ouais. Sûrement. Ouais.
C'était un grand comédien, hein, très célèbre.
Oui, qui m'a peut-être, j'y pense là, en vous parlant, été inspiré aussi par cet acteur de cinéma, de théâtre et de cabaretiste juif allemand qui s'appelait Kurt Gehron, dont vous avez peut-être entendu parler, qui d'ailleurs joue dans L'Ange Bleu.
Les taux se resserrent. Hein.
Pardon ?
Les taux se resserrent.
Voilà, les taux se resserrent, oui. Là. Et Kurt Gehron a été donc victime absolue de... exemplaire et absolu du nazisme. Mais il est possible que j'ai pensé aussi à Kurt Gehron, qui m'a beaucoup intéressé à un moment donné, quand j'écrivais Les Tabors. Et j'ai fait toute une recherche sur lui.
Mais cet acteur, vous dites qu'il est entré en folie, comme d'autres, en religion.
Oui. Ça peut être très intense, et de l'ordre de la révélation.
C'est-à-dire que le rapport entre le jeu et la folie est une sorte de lien sacré.
C'est-à-dire que la religion est une sorte de folie, peut-être. Ça, ce n'est pas impossible. Enfin, les trans, en tout cas, les états de trans sont assez proches de certains états de délire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... Pas uniquement, on peut pas... Mais un fond, il y aurait peut-être un fond ou une partie de fond commun aux deux états, l'état de folie et l'état de religion, peut-être, en tout cas, saisi. Quoi, voilà. Il est saisi par quelque chose qui est évidemment de l'ordre du démoniaque, enfin, du mal, de la souffrance, et pas de l'ordre du bien et de la lumière, des ténèbres, justement. Ouais.
La folie, ça serait la disparition de l'espace qui séparerait normalement la scène intérieure de la scène extérieure.
Oui, c'est une façon de voir les choses, tout à fait. Oui. Et puis, tout d'un coup, un voile, une obscurité, une opacité, disons. Enfin, dans le cas, en tout cas, de ce personnage, que j'ai eu l'impression de vivre de l'intérieur. Donc, je me suis vraiment identifié à ce vieil acteur.
Et puis, coup de théâtre, Emmanuel Moses, à un moment du récit, l'auteur introduit une bifurcation. Il nous entraîne dans un autre parcours, qui a pour point de départ un petit appartement, très haut de plafond, enfumé en permanence, où les livres s'entassent un peu partout.
Voilà, donc là, si vous voulez, c'était comme une sorte de remontée dans le temps, de retour en arrière, parce que sans le dire ouvertement, je reprends ce personnage avant sa perte de lucidité, disons, son effondrement psychique. Je le situe, je le vois, enfin, je l'ai vu dans un appartement, rempli de livres et de chiffons et de casseroles. Enfin, c'est assez étrange, je dois dire.
Mmh. Et puis encore, dans ce même texte, une autre bifurcation où, brièvement, vous évoquez une rencontre entre un homme et une femme dans un compartiment de chemin de fer.
Alors là, si vous voulez, c'était parce que ce texte est complexe, je vous l'ai dit, je ne le comprends pas très bien, mais il est construit sur trois parties comme ça, trois îlots qui seraient la crise de folie de l'acteur sur scène, due à, simplifions, aux attaques antisémites, disons, qui avaient cours à l'époque. Ensuite, une scène dans un train, une rencontre donc entre l'homme et la femme, où là aussi l'homme se sent tout d'un coup rejeté, étranger, refusé. Et puis une troisième partie dont vous allez peut-être parler, mais qui, elle aussi, a trait à une sensation, un sentiment d'exclusion, de refus et de rejet.
D'isolement.
Et d'isolement.
Avec le chagrin, au bout du compte. Un chagrin dévastateur qui ne trouve de consolation que dans les jupes maternelles.
Oui. Oui, sorte de repli, de retour sur soi. Et j'ai appelé ce texte de théâtre juif parce que c'est pour moi un texte très profondément juif. Et dans ce sens qu'il explore ou déploie, déplie quelque chose qui est de l'ordre justement de ce sentiment que peuvent avoir les Juifs d'être... surtout ce sentiment-là qui est le sentiment de l'exclusion. Voilà, c'est vraiment c'est un texte qui, pour moi, tourne autour de l'exclusion. Et de cette exclusion-là, il y en a d'autres, bien sûr. Je ne dis pas que les Juifs ont le monopole de l'exclusion, très très loin de là, mais je parle pour moi et de mon lieu, et de mes lieux, et de ma tradition, et de ce que je porte sur mes épaules, en lettres majuscules, sans toujours le voir.
D'Emmanuel Moses, Le théâtre juif et autres textes, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Axel Brizard, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.